Le débat du jour, Céline Pellarin.
Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. En ce moment à Paris, c'est la 44e FIAC qui bat son plein. La FIAC, c'est la Foire Internationale d'Art Contemporain, un événement culturel et commercial qui attire autant les professionnels du monde de l'art que les novices curieux. C'est également une période où fleurissent les ouvrages qui parlent du monde de l'art contemporain, souvent à charge, il faut le dire, contre ce qui est souvent perçu par le grand public, en tout cas comme un microcosme hermétique. Mais cette année, coïncidence ou non du calendrier, c'est le jour même de l'inauguration de la FIAC, mercredi, qui est sorti sur les écrans français un film qui parle de ces personnalités du monde de l'art contemporain. The Square, du Suédois Ruben Östlund, qui a reçu en mai dernier la Palme d'Or au Festival de Cannes. Alors, entre commerce et création, l'art contemporain a-t-il les défauts ou les qualités de notre époque? Quelle est la place de l'art contemporain dans nos sociétés? Et l'art contemporain existe-t-il au-delà du discours? C'est la question du jour. Et pour y répondre, mes deux invités sont avec moi en studio. Jean-Philippe Domecq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, critique d'art, auteur de Comédie de la critique, 30 ans d'art contemporain aux éditions Pocket et récemment aux éditions Safran. Qu'est-ce que la métaphysique fiction ? Alain Cumin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie, spécialiste de l'art contemporain et auteur du livre Les stars de l'art contemporain. C'est aux éditions CNRS. Alors, messieurs, on va peut-être redire un petit peu ce qu'est la FIAC pour nos auditeurs. La Foire internationale d'art contemporain, ça se passe chaque année à Paris. Il y a 30 pays qui sont représentés, 193 galeries. Durant la FIAC, il y a énormément de remises de prix, des partenariats médias, des sponsors également avec les entreprises. Et ces événements culturels ou commerciaux provoquent la sortie, donc on l'a dit, d'ouvrages qui sont des fois à charge ou au contraire qui encensent l'art contemporain. Est-ce qu'on peut dire également que l'art contemporain en France, avec la FIAC justement, on peut dire que cet art a été étatisé, au moins en France? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre, peut-être en premier. Allez-y, Jean-Philippe, Alain Cumin, pardon.
Oui, alors les foires, hein, tout d'abord, la FIAC, elle remonte à 1975. C'est une manifestation qui est une manifestation d'origine privée et qui sélectionne, les gens n'en ont pas toujours tout à fait conscience, des galeries qui les galeries elles-mêmes présentent sur leur stand. Donc elles louent un stand à l'organisation et qui est organisatrice de la foire, les artistes qu'elles défendent pendant le reste de l'année, dont elles font une sélection pour présenter un petit peu leur ligne et pour proposer donc des offres qui sont entièrement à vendre. Donc c'est très différent, les foires, par exemple, des biennales. Cette année, on a été très gâtés côté biennale, puisqu'il y avait à la fois la Grande Biennale de Venise, Documenta également, qui est une plus grande biennale dans le monde, et puis également Sculpture Project Münster, qui, elles, sont des manifestations non marchandes, où là, il y a un directeur artistique qui sélectionne les artistes directement. Donc, il faut bien distinguer quand même foire et biennale, et donc la FIAC, effectivement, est l'une des principales, maintenant, foires d'art contemporain dans le monde, moins importante que celles qui sont organisées par Art Basel, mais c'est un véritable enjeu pour la France. Pour autant, les pouvoirs publics ne sont pas directement concernés.
Pas directement concernés, mais par contre, l'art contemporain lui-même est souvent concerné par la relation avec l'État. On parle des FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain, et la FNAC, qui est le Fonds national d'art contemporain. C'est aussi une possibilité de délocaliser en région, en tout cas en France, cet art contemporain qui est parfois considéré comme étant du milieu parisiano-parisien et peut-être de faire émerger un certain art contemporain de région, en tout cas d'artistes de région.
Ce serait souhaitable, mais au vu des résultats et au vu des témoignages d'artistes, des artistes des régions, des artistes locaux, ce n'est pas souvent le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'attention à ce qui peut être proposé en dehors d'une certaine optique ou de certaines optiques dominantes de l'art contemporain. Par conséquent, ça ne permet pas d'ouvrir assez l'offre des différents langages et des différentes formes que peut inventer l'art contemporain, qui est un terme beaucoup trop générique. L'art contemporain, c'est il y a autant d'art contemporain qu'on le voudrait au niveau de la création, si vous voulez. Par
rapport et l'art contemporain, on considère que c'est à partir des artistes nés à partir de 1945.
Non, ça bouge. C'est le marché qui le fait. D'ailleurs, M. Cumin confirmera de façon factuelle sur le plan historique, mais ça a été un moment à partir des années 70, en fonction des salles de vente. Moi, j'appelle cela le l'art du contemporain, au sens où, si vous faites allusion à des querelles, c'est parce que certains se sont accrochés à cette notion de contemporain, comme si elle avait une valeur de validation et de critères esthétiques.
Ah, vous parlez de valeur esthétique, mais également valeur économique, parce que l'art contemporain, on en parle beaucoup pour les sommes qui sont parfois publiées dans la presse, pour des œuvres qui sont vendues à des millions d'euros. Il y avait, j'en ai récupéré quelques-unes, My Lonesome Cowboy de Murakami, 15 millions de dollars, Balloon Dog de Jeff Koons, qui avait été évalué et vendu à 58 millions de dollars. Et dernièrement, une toile de Basquiat, 110 millions d'euros, c'était un acheteur japonais. Alors, la relation entre l'argent, en tout cas les ventes aux enchères et l'art contemporain, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu bondir les gens qui ne connaissent peut-être pas grand-chose, et dont moi peut-être aussi. Mais il y a aussi cette relation avec l'argent, avec d'autres œuvres d'art, mais qui sont quand même... qui ont, d'une certaine manière, fait leur preuve. L'art contemporain, on a toujours une tendance à dire « Pourquoi est-ce que mettre autant d'argent pour quelque chose qui est aussi récent ?»
Alors, il est certain que, pour l'art ancien, l'éloignement temporel permet de stabiliser les valeurs. Pour l'art contemporain, les valeurs, qu'elles soient esthétiques ou marchandes, sont toujours plus labiles, toujours plus incertaines. Et les différents acteurs qui composent le monde de l'art contemporain, donc ce qu'on appelle en sociologie des académies informelles, des gens qui vont se rencontrer, qui vont échanger des points de vue, alors soit verbalement, soit par ce qu'ils regardent, par ce qu'ils donnent à montrer également, eh bien tous ces gens-là vont chercher des facteurs qui leur permettent d'asseoir un petit peu leur jugement, et ils cherchent notamment ces facteurs dans le domaine du marché, puisqu'aujourd'hui le marché et les institutions sont quand même extrêmement proches, et le marché, c'est une évolution qui est quand même assez net, notable, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, a vraiment pris de plus en plus d'importance, même par rapport aux très grandes institutions. Alors, sur ce que l'on disait tout à l'heure, le maillage territorial, j'appartiens à une génération, donc je suis né à la toute fin des années 60, durant laquelle l'art contemporain était inexistant en province. Aujourd'hui, quand même, les choses sont améliorées. En France, la grande biennale d'art contemporain, elle a lieu en ce moment même, est organisée non pas à Paris, mais à Lyon. Et puis, on a quand même les fonds régionaux d'art contemporain qui sont restés au nombre de 22 pour la France métropolitaine, malgré la restructuration. Donc on a veillé quand même à conserver une présence de l'art contemporain assez large sur les territoires français. En revanche, et là je rejoins ce que disait donc Jean-Philippe Domecq, il est certain que par ailleurs la définition même de ce qui est l'art contemporain est davantage discutable, puisque les gens qui appartiennent comme nous au monde de l'art contemporain pouvant avoir une définition plus étroite, plus élitiste probablement, que d'autres personnes qui voudraient ouvrir davantage la conception de l'acception de ce qu'est l'art contemporain.
Ouais, ce que je disais, c'est que là, est sorti sur les écrans français, en tout cas The Square, qui a été la Palme d'Or cette année à Cannes. Vous l'avez vu, justement, Jean-Philippe Domecq. Et ce film met en scène, on va pas tout le dévoiler, ce serait pas l'intérêt, on peut justement demander aux gens d'aller le voir pour se faire leur propre avis, évidemment, mais on met en place une histoire autour d'un musée qui se trouve en Suède et de ce conservateur en chef à qui il arrive des malheurs en cascade, et c'est surtout une vraie satire en fait de ce monde de l'art contemporain à laquelle également le cinéaste appartient. C'est quoi donc on commence un petit peu à aller vers quelque chose de plus de plus satire, de plus
Oui, il y a une plus grande liberté de ton pour traiter ces questions qu'il y a 25 ans lorsqu'on essayait d'ouvrir le débat. Maintenant le débat est ouvert, la preuve, on fait cette émission. Et en ce qui concerne le film, ce qui est important, c'est que certes l'art contemporain est le cadre professionnel du protagoniste principal, Christian, mais en même temps l'art contemporain n'est qu'un élément du film, et ce qui est le plus contemporain de le film, dans le film, c'est le film lui-même, la façon de filmer, les thèmes qu'il aborde. J'ai même intitulé mon article dans Positif « Hyper contemporain, point d'exclamation, point de suspension ». Les points de suspension sont destinés à une certaine presse française qui a tout de suite cru que c'était une satire de l'art contemporain. Pas du tout. Ce film a l'humour du constat, il montre les choses. Effectivement, si on voit un aspirateur mécanique sur tracteur qui fait attention à ne pas aspirer le sable de quelques tas de sable conceptuel, c'est ce que l'on voit dans les musées d'art contemporain. Je le dis en simple description, d'ailleurs, il suffit peut-être de le dire pour en rire, je ne sais. Mais enfin, en tout cas, je crois qu'il se sert de cela pour montrer un art qui n'a pas de prise sur ce monde-là. Et c'est le film lui-même qui a une prise, et qui invente un langage.
Alors justement, ce qui est drôle, c'est que Beaubourg, justement, a finalement joué le jeu. Il a diffusé le film quelques semaines en amont de sa sortie officielle, et était présent des grandes personnalités du monde de l'art contemporain. D'autres ont dit, nous ne le voyons pas encore, on le verra plus tard. C'est quoi, il y a quand même un petit côté, bon, faut pas exagérer, de se moquer comme ça de nous, c'est pas très sympathique. Il y a un côté, on s'est vexé quand même un petit peu.
Bah, je pense que les gens se sentent visés. C'est un film suffisamment subtil et mordant pour que il opère, après tout, ce qu'opérait le théâtre de Molière. Hein. On nous montre les précieuses radicales hein, d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est fait avec beaucoup d'inventivité et l'image du film, le travail du cadrage, puisque après tout, cette œuvre s'appelle The Square. L'œuvre proposée n'est qu'un carré, est un carré dans lequel il nous est dit que dans ce carré, tous les hommes ont les mêmes droits.
Et tout le monde est égaux.
Voilà. C'est quand même assez niais comme généreuse intention. Et d'ailleurs, on voit bien que pendant cela, autour, l'Europe, elle est menacée de l'intérieur, de l'extérieur, et qu'il y a une très grande violence.
Dans le film, il y a aussi beaucoup de la notion de scandale. Est-ce qu'on peut dire que l'art contemporain s'est fondé, s'est construit autour de la notion de scandale?
Oui.
C'est vraiment visible dans ce film également. On peut en parler également. Maintenant, dans la FIAC, c'est la même chose. On a eu l'œuvre de Domesticator qui a fait parler d'elle. On a cet artiste russe dont le nom m'échappe et qui a été arrêté, interné récemment parce qu'il avait incendié une des succursales de la Banque de France. Voilà. L'art contemporain et le scandale, c'est vraiment interlié.
Voilà, c'est-à-dire que là, il y a un historique, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a un historique, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un certain nombre de nouveautés de l'art moderne qui ont scandalisé, parce que c'était justement des remises en cause des formes d'expression antérieures. Ensuite, à partir de là, il y a eu une contestation, et c'était très dynamique, mais évidemment, comme toujours, les hommes s'arrangent pour faire de ce qui était un ressort un carcan, et maintenant, ça devient systématique. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un événement culturel, maintenant, on va chercher une provocation, et après, les organisateurs se flatteront de dire « Ben voyez, on vous l'avait bien dit, il y en a encore qui résistent à la nouveauté. » Ben non, il y a provocation et provocation.
On va continuer sur cette notion de scandale, peut-être avec vous, Monsieur Quemin. Le scandale, donc c'est intrinsèque, on peut le dire, à l'art contemporain. Pourtant, c'est exposé dans des structures très, très, très officielles, des musées, des fondations. On pense à la fondation Pinault, qui a présenté cette fameuse œuvre qui avait beaucoup fait parler d'elle. Le pape écrasé par une météorite, ça choque, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait vendre, ça donne ce petit côté de scandale, ce parfum de scandale qui fait monter les ventes ou qui fait monter la cote d'un artiste.
Alors très souvent, toutes ces œuvres, effectivement, sont mises en avant pour des logiques de promotion, pour des logiques de communication, mais je sors de la FIAC, et j'y ai passé toute la journée, et je vous assure que sur la plupart, voire sur la quasi-totalité des œuvres que j'ai vues, la provocation, elle était vraiment totalement inexistante. On oublie quand même, parce qu'on s'attarde sur ces œuvres qui sont les plus marquantes et qui souvent sont utilisées pour être marquantes pour des raisons d'image de marque, qu'il y a aujourd'hui de très grands peintres qui continuent à pratiquer la peinture de façon relativement classique, inventive, très intéressante d'un point de vue plastique, mais dont la provocation est totalement absente. Si vous regardez les artistes, je ne sais pas, mais les très grands peintres allemands de notre époque, les très grands peintres américains, les grands peintres britanniques, certains grands peintres français, je vous assure que leur peinture n'est pas du tout choquante. Mais c'est vrai que, par exemple, on l'a vu avec le Domesticator, donc là, cette sculpture qui était initialement prévue pour le jardin des Tuileries.
12 mètres de haut, on va peut-être la décrire pour les auditeurs. C'est 12 mètres de haut, en forme cubique, où on voit en fait une figure humaine devant un animal, et il y a un acte de sodomie entre les deux. Voilà, ça a beaucoup choqué. Ça a d'ailleurs été déplacé, c'était dans les jardins des Tuileries, donc devant le Louvre, qui n'en a pas voulu. Qui ça a été déplacé devant le centre Beaubourg, donc qui est beaucoup plus dans cet axe d'art contemporain, parce que ça a choqué en fait tout autour.
Oui, disons que l'œuvre avait été initialement annoncée, elle devait être gérée par la FIAC, mais pour le compte du Palais du Louvre, qui est responsable donc de l'installation des sculptures dans le jardin des Tuileries, et elle avait été montrée la photographie prise sous un angle qui ne permettait pas de comprendre quelle était la nature exacte de l'œuvre et qui estompait complètement la dimension sexuelle. Et je crois quand même que le Palais du Louvre a considéré qu'il avait été un petit peu floué lorsqu'on lui avait donc présenté l'œuvre en ne montrant pas la dimension qui était la dimension qui inévitablement allait faire jaser, voire allait proposer le scandale, a finalement renoncé à exposer cette œuvre-là, et c'est le Centre Pompidou qui a pris l'initiative de présenter l'œuvre sur la Plaza, donc dans un contexte qui est moins associé à la tradition et davantage à l'innovation, à la rupture, avec le bâtiment du Centre Pompidou qui, lorsqu'il a été inauguré en 1977, incarnait complètement cet esprit. Donc voilà. Donc, mais je crois quand même que c'était une œuvre qui était essentiellement destinée à faire parler, et que c'était une sorte de provocation un petit peu gratuite, un petit peu facile. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes, me semble-t-il, dans le jardin des Tuileries actuellement ou à l'intérieur de la FIAC quand on parcourt les allées. Mais inévitablement, c'est cette œuvre-là dont la plupart des gens allait parler, qui allait monopoliser l'attention.
Oui, parce que la FIAC, on peut se promener dans Paris et voir, il y a une quarantaine d'œuvres, je crois, qui sont visibles gratuitement.
Dans le jardin des Tuileries, absolument.
Voilà, à l'extérieur. On parlait de la notion de scandale, c'est évidemment intrinsèque, mais c'est pas inhérent à l'art contemporain. Il y a des œuvres qui ont énormément fait jaser et choquer. Je pense par exemple aux œuvres de Courbet, L'Origine du Monde, qui est encore exposée au musée d'Orsay et qui fait toujours beaucoup jaser et toujours l'objet d'une certaine... fait toujours sous le choc en fait de certains spectateurs qui se retrouvent devant. Finalement, est-ce que là, c'est pas lié au niveau économique? J'en reviens toujours à cette économie-là. Choquer pour faire vendre, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, et l'art contemporain de cela n'est pas du tout innovant là-dedans, en fait.
Non, The Square, d'ailleurs, il y a tout un axe qui est très éclairant, c'est-à-dire que pour promouvoir ce carré qu'on vient d'évoquer, ils font appel à une agence de communication, et les communicants vont faire quelque chose qui est le contraire de la proposition de l'heure, c'est-à-dire contraire de la niaiserie humaniste, ça va être une très très grande violence. Mais c'est pour provoquer, encore une fois, pour des raisons d'accroche commerciale, comme le disait M. Quemin. Et donc, en même temps, l'un et l'autre sont aussi dérisoires, si vous voulez. Il y a une espèce de fleur bleue théorique dans l'art contemporain qui domine quand même pas mal de propos. Je dirais même au niveau pour des gens comme Jean-Pierre Reynaud, puisque vous parliez de la Plaza, on a quand même eu ce grand pot de fleurs dorées pendant 8 ans sur la Plaza. C'est quand même d'une grande niaiserie théorique. Il faut quand même dire les choses. Et en même temps, il y a cette violence, en fait, et qui n'a pas prise sur le monde. Donc on nous dit que c'est ainsi maintenant, que c'est désormais ce monde contemporain, mais cet art-là ne l'atteint pas vraiment. Et je suis d'accord pour dire que pendant ce temps-là, comme le dit M. Quemin, il y a des œuvres importantes qui ne cherchent pas la provocation du tout. Il y a aussi des galeries. Par exemple, je soutiens une artiste qui est exposée en ce moment, une photographe autrichienne, Isabelle Sellern, à la galerie Achronique 42 rue du Mont-Cenis. C'est encore jusqu'à demain, bon, voilà, elle ne cherche absolument pas la provocation. Et c'est d'autant plus éloquent.
On parlait donc de la FIAC qui se passe en France, à Paris. Allons sous d'autres latitudes. Parlons de l'art contemporain en Afrique. Là, récemment, s'est ouvert le MOCA. C'est en Afrique du Sud, au Cap. C'est le premier musée qui va retrouver, où on pourra retrouver les œuvres d'art des artistes africains. C'est la première fois. Et on peut dire qu'il était temps. Est-ce que l'art africain, qui a toujours beaucoup plu, en fait, sur les marchés occidentaux, le fait que maintenant on ait une structure, certes basée sur une collection privée, mais qui est d'obédience publique maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de la normalité? Maintenant, il faut présenter au public les œuvres de son propre continent. C'est quelque chose qui est vu maintenant à la FIAC. Il n'y a que deux galeries qui viennent du continent africain. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de ces grands événements économiques, mais également artistiques,
culturels
en Occident?
Alors, le monde de l'art contemporain se pense toujours extrêmement incluant, extrêmement ouvert. Nous aimons en tout cas nous représenter de la sorte. Et quand on regarde quels sont les artistes stars aujourd'hui, on voit que les artistes stars sont essentiellement des hommes blancs, âgés. Il y a cette idée, parfois, effectivement, selon laquelle l'art contemporain est très associé à la jeunesse, mais on voit qu'il existe tout un cursus honorum qui fait que pour devenir un artiste important, il faut passer sous des fourches codines et qui vont souvent avoir comme prérequis le fait d'avoir les caractéristiques que j'ai énoncées précédemment.
Avec des plafonds de verre pour
absolument,
les femmes.
Voilà, les femmes, aujourd'hui, on le voit encore en France, elles sont peu nombreuses à être intégrées dans les grandes manifestations, à avoir des expositions monographiques dans les plus grands musées. Là vient d'ouvrir, c'est quelque chose d'un petit peu spécial, au 11 Conti, donc la Monnaie de Paris, une exposition Women House, donc qui est consacrée uniquement à des artistes femmes, le lien entre les femmes et le domestique, qui me semble important. Et on voit donc également que le monde de l'art contemporain essaye quand même, même plus récemment, d'être davantage inclusif également envers les artistes d'autres origines géographiques pour se renouveler un peu. Et les artistes africains sont effectivement des artistes qui ont été très longtemps négligés sur la scène contemporaine, et on voit maintenant de plus en plus les institutions commencer à s'y intéresser, les collectionneurs commencer à s'y intéresser, mais c'est essentiellement un phénomène de rattrapage, et on est très sensible à cette nouveauté, alors que malgré tout, aujourd'hui, ce sont essentiellement des artistes blancs qui trustent les positions aussi bien sur le marché que dans les institutions, et encore plus précisément des artistes américains ou allemands, par exemple.
Merci messieurs, on a donc essayé en 20 minutes de répondre à cette question très large. L'art contemporain existe-t-il au-delà du discours? J'espère qu'on aura apporté quelques réponses. Merci également à Florence Ponce, Rodolphe Marcan et Patrick Adam qui m'ont aidé à préparer ce débat.